Vous écoutez
RMC. 8h01, vous êtes sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. L'Espagne en fête depuis hier soir et la victoire en finale de la Coupe du Monde 1-0 contre l'Argentine. Vous allez voir que les nouveaux champions du monde sont attendus à la mi-journée à Madrid où une grande parade les attend. On sera dans le Tarn, dans ce journal où les habitants sont soulagés d'apprendre que les ossements retrouvés la semaine dernière sont bien ceux de Delphine Jubilar. On sera aussi dans le Var où le feu ce matin n'est toujours pas fixé près de Draguignan, mais les nouvelles sont plutôt rassurantes.
C'est l'Espagne tout entière qui fait la fête depuis hier soir.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et je vous propose pour commencer d'écouter l'explosion de joie des Espagnols. Ça fait mal aux oreilles. Ça, c'était après le but de la victoire, donc en prolongation face à l'Argentine. Victoire 1-0 des Espagnols. La fête s'est prolongée toute la nuit et va se poursuivre, surtout aujourd'hui, puisque les Espagnols, nouveaux champions du monde, sont dans l'avion. Là, en ce moment, ils sont attendus à la mi-journée avant une grande parade qui les attend en fin de journée. Ce sera donc dans la capitale, Madrid. 1 million de personnes sont d'ores et déjà annoncées. Nicolas Pelletier, vous êtes en direct de New York où se jouait la finale ce matin en direct pour RMC. Et vous nous dites que cette équipe d'Espagne fait l'unanimité.
Les rois de tous les temps, titre ce matin le grand quotidien sportif Marca, accompagné de 3 points d'exclamation. Cette consécration espagnole est aussi une récompense pour le football dans une sélection qui met l'expérience comme son taulier, meilleur joueur du tournoi, le capitaine Rodri, et de la jeunesse avec Lamine Yamal qui a seulement 19 ans, remporte sa première Coupe du Monde 2 ans après un succès à l'Euro. Cette équipe espagnole a de quoi rappeler la génération championne du monde en 2010. Tout cela sous les ordres d'un homme, le très discret Luis de la Fuente, un pur produit de la formation espagnole. En 5 semaines passées aux États-Unis, l'Espagne n'a jamais vraiment été inquiétée. Une victoire finale pour une équipe invaincue depuis 38 matchs, un record en football international qui prive au passage Lionel Messi d'un doublé historique. Une finale qui aura notamment été marquée par les sifflets contre Donald Trump lorsqu'il a pénétré sur la pelouse et par l'incruste du président américain sur la photo de groupe espagnol qui soulève le trophée. Désormais, la Rora a un objectif en tête: conserver cette Coupe du Monde dans 4 ans lors du tournoi organisé à la maison.
Alors en Espagne, Nicolas Pelletier pour RMC en direct ce matin, la presse en effet est élogieuse. En Argentine, elle est bonne perdante, elle reconnaît que les Espagnols étaient plus fortes à l'image des Argentins ici dans la capitale, Buenos Aires.
Nous méritions de gagner cette Coupe du Monde, mais l'Espagne a aussi montré ce qu'elle valait. C'était une finale historique et voilà, il faudra se battre pour la Coupe la prochaine fois.
Perdre ou gagner aujourd'hui n'avait pas d'importance, parce que l'équipe nationale a montré bien plus qu'une victoire. Aujourd'hui, on relève la tête et aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, on célèbre. Bon sang, aujourd'hui, on célèbre.
Ce qui nous a manqué ici, c'est de la hargne. Rien d'autre n'a manqué. C'est-à-dire que nous avons tout donné jusqu'à la dernière minute. Nous avons toujours joué et les gars ont tout donné. C'est-à-dire que je suis plus que reconnaissant.
Bon, et figurez-vous que la France a un petit peu gagné hier soir, on se réconforte comme on peut. Mais puisque Lionel Messi n'a pas marqué, c'est Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la compétition avec 10 buts, meilleur buteur même de l'histoire des Coupes du Monde.
Il est 8h05 sur RMC, il y a comme du soulagement ce matin dans le Tarn.
Oui, c'est confirmé, depuis hier, les ossements retrouvés la semaine dernière dans un champ sont bien ceux de Delphine Jubilar. Des analyses ont été réalisées pendant le week-end. C'est Cédric Jubilar qui avait indiqué l'endroit où il dit avoir enterré le corps il y a presque 6 ans, à une dizaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, où vous trouvez ce matin pour RMC Jean-Wilfried Forquès, et vous nous dites que sur place, il y a du soulagement.
Oui, effectivement, c'est bien ça, le soulagement, même s'il n'y avait vraiment pas trop de doutes de la part des habitants ici. Certains d'entre eux ajoutent même, il nous a menti des années durant. Désormais, on va vraiment pouvoir tourner la page. Pour autant, ce matin, rien n'est réglé. On ne connaît pas les causes exactes de la mort. Y a-t-il eu des violences? Et quel type de violence sur l'infirmière de Cagnac-les-Mines? Pour y voir plus clair, dans les prochains jours, des analyses sont d'ailleurs prévues. Une reconstitution également de cette soirée de décembre 2020 est envisagée. Ce qui fait dire aux avocats de la Défense, aux avocats de Cédric Jubilar, que le procès en appel du 21 septembre prochain à Toulouse doit être absolument reporté. Pour cela, la balle est dans le camp de la présidente des assises de la Cour d'appel de Toulouse.
L'autre info ce matin, c'est que les nouvelles sont plutôt rassurantes. Dans le Var, près de Draguignan, aux Arcs et à Tarado, les deux communes touchées par un incendie qui a parcouru 200 hectares hier, le plus gros incendie de l'été dans ce département du Var. Il a traversé l'autoroute, détruit une dizaine de maisons, provoqué de gros soucis sur le trafic des trains et l'évacuation de 150 habitants. Célia Vallée, vous y êtes ce matin pour BFM TV et pour RMC avec les toutes dernières infos.
Le feu n'est pas fixé, mais la situation est beaucoup plus rassurante ce matin qu'hier soir. Les pompiers ont lutté toute la nuit sur les nombreux points chauds. En ce qui concerne les habitants qui ont été évacués hier, eh bien, ils ont pu regagner leurs habitations depuis hier à 22h. Il y a eu une dizaine de maisons brûlées. Les personnes qui habitent dans ces maisons sont actuellement relogées à l'école de la commune. Elles sont environ 17 personnes. La complication pour les pompiers ce matin, et ça va être aussi le cas aujourd'hui, c'est d'accéder à différentes zones escarpées. Pour cela, ils peuvent compter sur deux bulldozers qui les aident à tracer des pistes autour des chantiers et ainsi y accéder grâce à leurs engins. Et enfin, un dernier mot sur la SNCF. Le trafic ferroviaire a été coupé hier. Il a repris ce matin, je cite, avec une marche prudente, selon la SNCF.
Alors, les pompiers sont aussi mobilisés contre le feu en Haute-Corse, dans une zone escarpée, ça fait 8 jours. En Loire-Atlantique aussi, où un incendie a pris hier dans une zone résidentielle près de Saint-Nazaire. Le feu, ce matin, est fixé. C'est l'autre information. Dans un contexte, tout ça, de sécheresse, avec une cinquantaine de départements en situation de crise, après les 3 épisodes là, de canicule, on s'inquiète même par endroit pour l'accès à l'eau potable. Écoutez avec Lucas Lobert et Martin Lange pour RMC.
Apiculteur à Quincy-le-Vicomte en Côte d'Or, Alexandre est aux premières loges pour observer les dégâts de la sécheresse.
Tout est jaune, on se dirait dans la brousse. J'ai jamais vu ça comme ça.
Les nappes phréatiques sont au plus bas et la source du village ne parvient plus à alimenter le réseau d'eau potable.
Il y a des camions-citernes qui viennent du village voisin, qui remplissent le château d'eau du village.
Une situation loin d'être inédite à 300 km de là, dans le Doubs, la commune de Montjoie-le-Château est aussi approvisionnée par des camions. Le maire, Claude Martelet.
Ce printemps, on avait quand même des nappes archi pleines, elles débordaient, elles se sont vidées rapidement. Et on n'a plus d'eau, quoi.
C'est la 3e fois que la communauté de communes met en place cette distribution d'eau, un système D qui a un coût.
Il y a 2 ans, on est arrivé à 80 000 euros de livraison d'eau. Heureusement pour des petites communes comme nous, qu'on gère plus ce problème-là. Je ne sais pas comment on ferait pour payer les camions d'eau.
Des pénuries qui arrivent très tôt dans l'été, selon Anne Ducharne, hydrologue au CNRS.
Les sécheresses sont pires en août qu'en juillet. Là, on est vraiment très en avance et c'est ça qui est très inquiétant. Il y aura très certainement un nombre croissant de communes qui verront l'eau s'arrêter au robinet.
Elle plaide pour renforcer dès à présent les restrictions d'eau pour les secteurs les plus consommateurs, comme l'agriculture ou l'industrie.
Eh bien justement, c'est dans ce contexte que le projet de loi d'urgence agricole est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui, après l'accord trouvé la semaine dernière entre députés et sénateurs pour réintroduire 2 pesticides controversés et aussi faciliter le stockage de l'eau pour les agriculteurs. C'est pas sûr du tout que cette version du texte soit votée. Thomas Becker du service politique à RMC. Pourquoi ? Parce que le bloc central est fragmenté. Une réunion est même prévue dans l'après-midi à Matignon.
Oui, le Premier ministre va d'abord évaluer le rapport de force. Est-ce qu'en l'état, le texte peut être voté ? La question se pose parce que la réintroduction de l'acétamipride est une mesure qui crispe, reconnaît la ministre de l'écologie Monique Barbu. Elle a mené des consultations tout le week-end. Son entourage explique à RMC que la mesure met en danger le vote de l'ensemble du texte. Ce soir, c'est la position du groupe macroniste de Gabriel Attal qui pourrait faire la bascule. Un député de ce groupe plaide en coulisses pour abandonner la réintroduction de ces pesticides pour sauver le reste du texte. Abandonner les agriculteurs, on ne peut pas se le permettre, prévient le même député. Sébastien Lecornu devra trancher dans la journée. Le gouvernement peut toujours faire évoluer le texte jusqu'à la dernière minute.
Bon, et puis c'est la 2e journée de repos sur le Tour de France qui repartira demain au bord du lac Léman. Sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez, qui a chuté et abandonné hier lors de la première étape dans les Alpes, remportée par le Belge Remco Evenepoel. Le Français Paul Sexas a concédé 1 minute. Il est ce matin 4e du général, à 30 secondes du podium. Ce sera l'enjeu de la 3e et dernière semaine.
À suivre évidemment sur RMC l'intégral tour cet après-midi. C'était Quentin Vinet pour le journal. Il est 8h10 et on va tout de suite à Grenoble en direct ce matin. On est avec Alain Brunon. Bonjour à vous. Vous êtes élu municipal, président du groupe LFI à la mairie de Grenoble. Samedi soir, vous avez organisé, vous aviez même appelé à cette manifestation pro-palestinienne qui a interrompu le concert de la DJ Barbara Butch au motif qu'elle a soutenu une proposition de loi contre les nouvelles formes d'antisémitisme. C'était il y a quelques mois, vous étiez plusieurs dizaines. Pourquoi interrompre un concert ? Vous, élu LFI, vous assumez d'empêcher une artiste de se produire sur scène ?
Écoutez, nous n'avons empêché personne de se produire sur scène puisque Madame Barbara Butch s'est produite sur scène.
Bah, elle a interrompu. Elle est partie au bout de 20 minutes, donc le concert
elle
a été interrompu.
Elle-même son concert, c'est vrai. Et bien
sous
évidemment,
les sifflets et les interpellations qui se sont
mobilisés évidemment pour faire en sorte de dire et de créer notre colère que nous n'étions pas d'accord avec la signature d'une tribune appelant au vote de la loi Yadan, qui est une proposition de loi qui avait vocation à criminaliser les soutiens du peuple palestinien et de placer comme une pas seulement une critique, mais un délit pénal.
On va juste préciser quel était l'objet de cette proposition de loi. C'était donc la lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme, avec un texte qui avait fait polémique à ce moment-là, puisqu'il élargissait le délit d'apologie du terrorisme. Sauf que ce texte a été retiré depuis, donc le débat est clos, et ça n'était pas vraiment le sujet de sa prestation. Elle venait juste jouer de la musique. Je vois pas très bien le rapport.
C'était le sujet d'une artiste qui a pris position par cette signature-là. Et donc, bien évidemment, qui s'est exposé. Et donc, il fallait s'attendre en retour à ce qu'il y ait des militants, d'autant plus à Grenoble, qui est une ville berceau de la résistance, qui ne soit pas d'accord avec cette loi, qui est une loi, monsieur, qui a vocation et qui avait vocation à lutter,
non pas contre l'antisémitisme,
monsieur, qui n'avait pas vocation à lutter contre l'antisémitisme, et qui avait vocation à criminaliser les soutiens du peuple palestinien.
Donc, et qui a été retiré et qui n'existe plus.
Qui a été retiré, mais la signature existe encore, et madame Barbara Butch est allée se produire à Tel Aviv en plein génocide quand il y avait des militants palestiniens qui essayaient de briser le blocus naval à Gaza. Vous savez, c'est aussi un élément qui est intéressant à pointer du doigt.
Le ministre de l'Intérieur vous accuse d'antisémitisme, d'intimidation. Dit-il, ça n'a pas sa place dans la République. Hier, samedi soir, il y a eu des sifflets, des doigts d'honneur, des insultes. Il y a eu des jets de bouteilles en verre et des installations électriques dégradées.
Oui, oui, ça c'est ce qu'il dit. Nous ne le croyons pas.
C'est la mairie qui dit ça. C'est la mairie de Grenoble qui dit ça.
Nous ne croyons pas non plus la mairie de Grenoble. De notre côté, il n'y a eu aucune violence. Simplement des militants pacifistes. J'étais en première ligne de ces militants qui ont simplement brandi des drapeaux palestiniens et crié leur colère de voir que dans ce pays, il y a toujours une criminalisation permanente des militants pro-palestiniens, alors même que le génocide se poursuit à Gaza. Le ministre de l'Intérieur a beau dire ce qu'il veut, c'est un menteur absolu quand il nous traite d'antisémites, mais nous avons l'habitude avec lui, qui est un censeur de premier plan lorsqu'il a voulu notamment interdire la fête de la musique de la France Insoumise
et antisémitisme,
et que personne n'a trouvé rien d'autre à redire. Mais ça c'est faux, personne n'est antisémite dans la France Insoumise.
Mais ce qui est vrai, c'est que vous avez interrompu un concert et que ce matin, sur RMC, on entend que vous assumez, vous élu municipal LFI, vous assumez d'avoir interrompu un concert, donc un événement culturel. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Alain Bruno. Il est 8h14 sur RMC. Dans un instant, l'économie avec Emmanuel Lechypre et puis on va revenir sur l'affaire Jubilard. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Vous êtes un ex-commandant de la police judiciaire. Que change la découverte des ossements découverts à Cagnac-les-Mines et dont on a la confirmation qu'ils étaient bien la dépouille de Delphine ce matin? Qu'est-ce que ça va changer 5 ans et demi après la mort de Delphine dans cette enquête? Est-ce qu'on peut encore comprendre les causes de la mort? On en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Sébastien Krebs.
Il est 8h17 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Jean-Pierre Colombiès, merci d'être avec nous. Rebonjour. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire, auteur de La face obscure de la police. Vous êtes en studio avec nous ce matin alors que l'enquête sur la mort de Delphine Jubilard, il y a 5 ans et demi dans le Tarn, a connu donc un rebondissement ces derniers jours. On a eu confirmation hier soir que les ossements retrouvés jeudi étaient bien ceux de Delphine Jubilard. Ils sont donc identifiés. Cédric Jubilard a dit vrai, il a mené les enquêteurs jusqu'au lieu où il avait enterré la dépouille de Delphine Jubilard. Est-ce que 5 ans et demi après, on peut espérer en savoir davantage?
Si on reste sur un point de vue technique, scientifique, il y a peu de chance. Très peu de chance. Il a avoué sous la contrainte des événements, Cédric Jubilard. Hein. Là, on est dans un... Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais c'est une forme de poker judiciaire sur la cour d'assises. Il y a eu une première partie, un premier challenge qui a été perdu par ses premiers avocats et lui-même, qui basaient toute leur défense, tout leur argumentaire sur l'absence d'éléments concrets qui ne pouvaient déboucher que sur l'acquittement. Perdu, le bluff a perdu, et il a été condamné à 30 ans de réclusion, ce qui est en tout cas la démonstration.
Donc pour vous, c'est uniquement une stratégie pour tenter d'obtenir une forme de clémence en appel?
Clairement, et j'assume tout à fait ce point de vue. Il a perdu. Ça prouve en tout cas que, contrairement à ce que dit son avocat actuel, Maître Dubuisson, qui nous réserve à chaque fois une sorte de Chaud Jubilard dans le cadre duquel il joue le rôle du clown blanc. Mmh. L'enquête n'a pas du tout été bâclée, elle a été très bien faite, très bien menée, et elle a mené à la condamnation de Cédric Jubilard. Et ce qu'il tente de faire aujourd'hui, c'est d'aboutir à une autre qualification, à un autre contexte qui a amené
la c'est sa thèse de la dispute qui a mal tourné. Juste sur l'aspect recherche scientifique, puisque là on sait que c'est les experts de l'IRCGN, donc c'est les laboratoires de la gendarmerie qui travaillent sur ces ossements qui ont été retrouvés. On sait que l'ensemble de la dépouille n'a pas été retrouvé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et est-ce qu'ils peuvent réussir à retrouver des choses qui nous donneraient des indications sur les causes de la mort?
Pas vraiment. Les examens qui ont été réalisés ont permis de confirmer ce que tout le monde pensait, en toute logique. C'est qu'il s'agissait des ossements de Delphine. Pour en savoir plus, il aurait fallu retrouver la partie haute, notamment le crâne, les cervicales, enfin tout ce qui est en rapport avec une situation d'étranglement. Mais j'ai presque envie de vous dire que même si on les retrouvait, ça changerait pas grand-chose quant à la posture qu'a décidé d'adopter Cédric Jubilard, dès lors que ce que je voulais vous dire, c'est que là, il y a une graduation dans les peines, d'accord ? Coups et blessures et entraîner la mort, 15 ans. Sur conjoint, 20 ans. Si c'est un meurtre, 30 ans, d'accord ? Si, par contre, au cours de, je dirais, ce qui va précéder le prononcé de la condamnation, à savoir le délibéré, la question de l'assassinat est posée et que la réponse est oui, c'est la perpétuité. Donc, la structure de la défense qui est en train de se mettre en place, c'est on va créer une histoire, et c'est pour ça que je vous dis que même la découverte du crâne ou de quelques autres ossements ne changerait rien à la tactique qu'il est en train d'ébaucher, parce que lui a commencé déjà à dire que c'était une dispute qui avait mal tourné.
Pour vous, il y a une forme de cynisme à exprimer des regrets qu'il dit sincères, à dire je fais ça pour mes enfants. En réalité, tout cela est une stratégie de défense.
Et je vous renvoie tout simplement aux images qu'on a de lui depuis le début, et notamment pendant l'audience. Je ne sais pas du tout quelqu'un. Alors Dubuisson nous a présenté un type qui était en état second, en état de zombie. Regardez-le quand il arrive dans le prétoire. Enfin, quand il arrive dans le box des accusés, pardon. Il est parfaitement à l'aise, il est très décontracté, il s'entretient de la façon la plus naturelle qui soit avec son avocat de l'époque. Enfin, c'est pas si vieux que ça, de l'année dernière. Non, tout va très bien pour lui. Et vous savez, il est dans cette posture du show, du vedettariat judiciaire. On parle de lui, il est au cœur du système, et c'est ça à mon avis qu'il faut casser. Et la meilleure façon de le casser, ça, en tout cas c'est mon point de vue, ça ne vaut que pour ce que j'en pense, c'est de maintenir la date.
Parce que j'allais vous demander
du 21 septembre,
le reporter ce procès en appel, ce serait lui donner raison, mais ce serait jouer, ce serait aller dans son sens.
Il joue la montre, ses avocats jouent la montre avec vraiment des arguments, mais qui sont d'une bassesse absolument inégalable depuis des années, en mettant en cause, un, l'enquête des gendarmes, qui, je suis navré, était parfaite puisqu'elle a amené sa condamnation à 30 ans, y compris la posture de ses avocats, puisque quand vous insinuez que vous seul avez su créer les conditions de la confidence, ça veut dire que les autres étaient nuls, en tout cas étaient pas très bons, contrairement à tout ce qui a été dit à l'issue de l'audience, où le talent, en tout cas la qualité professionnelle de ses avocats a été reconnue. Et puis vous désavouez vous-même, parce que vous dites oui, l'enquête est bâclée. Bah non, elle est pas si bâclée que ça, il avoue. Donc s'il avoue, c'est que c'était bien lui, nous sommes bien d'accord, je n'entends rien.
Merci
donc
beaucoup.
Il est bien coupable.
Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Colombiès d'être venu ce matin sur le plateau d'RMC, RMC Story. Vous êtes ancien commandant de la police judiciaire. Il est 8h22, c'est l'heure de l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, on connaissait le vainqueur de la Coupe du Monde avant même le coup d'envoi de la finale Espagne-Argentine hier soir. Le vainqueur sur le plan économique.
Oui, absolument. Et ce vainqueur, c'est Adidas, puisque hier soir, les deux équipes finalistes et le ballon de la compétition arboraient les célèbres trois bandes de la marque allemande. Alors, le match était serré avec Nike, hein. Sur le papier, il l'est pas, puisqu'il faut rappeler que Nike, c'est quasiment l'équipementier numéro un mondial, qui est deux fois plus gros, quasiment, qu'Adidas. Sauf que là, pour le mondial, il y avait match, puisque la marque américaine habillait 12 équipes de cette Coupe du Monde, dont le Brésil, la France, l'Angleterre. Adidas en équipait 14, mais sur les 14, il y avait les deux finalistes, l'Espagne et l'Argentine, alors que Nike équipait les deux équipes de la petite finale, la France et l'Angleterre.
Adidas ne gagne pas seulement donc sur le plan sportif.
Non, Adidas gagne évidemment sur le plan financier, autour de 1,5 milliard d'euros de recettes liées à la Coupe du Monde, dont il est aussi le partenaire officiel. Il faut rappeler que Adidas équipe la Coupe du Monde en ballon depuis 1970, et qu'à chaque Coupe du Monde, c'est quand même 15 millions de ballons vendus à peu près. En France, c'est 150 euros pièce, donc voyez ce que ça représente. Adidas gagne sur les réseaux sociaux, selon les données de l'agence Creator IQ, la valeur médiatique générée par les publications sur les réseaux sociaux a frôlé 50 millions de dollars au cours des trois premières semaines de compétition pour Adidas, contre 30 seulement pour Nike. Les ventes de maillots, n'en parlons pas, hein, il y a 1,5 à 2 millions de maillots qui sont vendus de l'équipe gagnante après la Coupe du Monde. Et puis surtout, pour le plus important, Adidas gagne sur le marché américain, puisque l'écart de part de marché entre Adidas et Nike est plus faible dans les pays où le foot est ou devient populaire. Et là, il va y avoir un engouement pour le foot aux États-Unis qui laisse penser qu'Adidas va faire de beaux résultats sur les terres même. Sur les terres même de Nike.
Voilà, le business de la Coupe du Monde et le vainqueur avec Manu Le Chypre ce matin. Il est 7h24. Allez, on va rire un peu maintenant. Il a pris évidemment un peu de vacances, Arnaud Demanche, mais il est avec nous tout l'été. On vous a gardé le meilleur.
Et oui, bonjour. Bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. On va rigoler. Ouais. Tiens, Apolline.
En moins dangereux.
Est-ce que vous...
En moins dangereux, ouais.
Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie, où le grand favori pour les élections du jour s'appelle Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si. Rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, des fois on confond le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona. Il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël. C'est Arthur Chevalier qui expliquait ça tout à l'heure.
Très belle chronique d'Arthur.
Et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué: je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler
vaguement,
sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Mais il faut rigoler, parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé. François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina français à nous, notre couple glamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique, c'est pour moins surveiller ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf. Ses fringues, qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu veux le contenu?
Sinon, il y a la bouffe. Ouais, Hollande, il est rentré chez lui, il fait: oh les salauds, ils ont volé le restant de pâté. Non, non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit: j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé
les aimants, ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements. Il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait: oh non, non! Julie, recommande des cordons bleus! Quelle abnégation pour rien. C'est ça, un président.
Arnaud, la chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews, a lancé une déclinaison, ça s'appelle CNews Prime.
Oui, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré, qui a dit: on va lancer un nouveau CNews, un CNews 2, et je serai le maître du monde. Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3. Je vous ai rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews,
super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin.
J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma.
Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera Les Visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourvil dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma. Allez, à demain.
Arnaud Demange à retrouver en podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC. Dans un instant, la météo et le journal. 8h32.
RMC, Apolline Matin.
L'heure d'un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Les Arcs-sur-Argent et Tarado touchés par le plus important incendie de l'été dans le Var. Incendie toujours pas fixé ce matin. Près de 200 hectares brûlés et des maisons ravagées par les flammes. La riposte américaine s'intensifie. 9e nuit de frappe sur l'Iran. Réaction après la mort de ses militaires, notamment un soldat hier en Irak. Et l'Espagne se réveille avec une deuxième étoile. Victoire 1-0 cette nuit face à l'Argentine. Et ce matin, on s'intéresse également aux défis qui attendent le futur sélectionneur pressenti des Bleus, Zinedine Zidane.
L'incendie n'est toujours pas fixé dans le Var.
La situation s'améliore ce matin selon les pompiers, toujours mobilisés et épaulés par des canadaires bombardiers d'eau. Les dégâts, eux, sont importants. 10 maisons ravagées par les flammes, près de 200 hectares brûlés, 150 habitants évacués. Certains ont pu regagner leur logement. Les explications ce matin du maire des Arcs-sur-Argent, Marcel Florent.
Hier soir, on leur a donné l'autorisation de revenir chez eux à pied, sans véhicule. On a actuellement donc dans notre école 17 personnes, soit des gens qui ont perdu leur maison, soit des gens qui sont avec une santé précaire. Donc on les a sécurisés pour toute la nuit. Ce matin, un travail de relogement qui va être fait. Et puis, pour certains, on va les réaccompagner chez eux, voir s'ils peuvent être accueillis dans leur famille.
Les pompiers espèrent pouvoir fixer cet incendie ce matin. Incendie qui a provoqué hier une grosse pagaille sur le réseau SNCF entre Marseille et Nice. Des TGV et TER annulés, perturbés. Le trafic SNCF entre Marseille et Nice a repris ce matin. Autre incendie hier près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Il est fixé ce matin. 20 hectares ont brûlé et 3 maisons ont été ravagées par les flammes.
8h34, c'est la 9e nuit consécutive de frappes américaines en Iran.
Et dans le viseur des centres de commandement et des réseaux de communication. Et Henri Arnaud, correspondant à Washington pour RMC, Donald Trump veut venger les soldats américains tués ces derniers jours au Moyen-Orient, notamment un militaire hier en Irak.
Ce soldat a été tué lors d'une opération de neutralisation d'un drone attribué à l'Iran et abattu par les Américains. Mais au-delà de cet incident, c'est toute la confrontation entre Washington et Téhéran qui se durcit depuis plusieurs jours avec des frappes américaines et des menaces de riposte iranienne. Ce dimanche soir, Donald Trump a une nouvelle fois affiché sa fermeté, affirmant que l'Iran a été lourdement affaibli ces dernières heures à nouveau avec des frappe en hommage à ses militaires et ses soldats tués. Il a également laissé entendre que cette campagne militaire pourrait se poursuivre. Une nouvelle escalade qui pose désormais une question centrale. Après la mort de plusieurs militaires américains et la multiplication des frappes, jusqu'où Washington et Téhéran sont-ils prêts à aller ?
Il est 8h35 et la grande migration estivale est lancée.
Il y a des centaines de kilomètres de bouchons hier sur les routes, mais à l'arrivée, la mer, le soleil et les vacances à Valras-Plage dans l'Hérault, les nouveaux arrivants savourent leur premier jour de repos. Charlotte Guerre est allée à leur rencontre.
Direction la plage et les copains pour Lisa, 23 ans, et son père qui ont quitté Caen pour la Méditerranée dans la nuit de samedi à dimanche.
On vient chercher un peu de fraîcheur, un peu de vent frais, ça fait du bien. Quand il fait aussi chaud.
Et au programme,
ça va être plage, jet ski, Apéro.
Et pour son père.
Repos, ouais. Ça fait du bien, ouais, du bien. On a besoin.
Pour Renaud, France et leurs enfants Iseur et Zachary qui sont arrivés d'Ardèche ce vendredi, le début des vacances rime surtout avec la gourmandise.
C'est manger une grosse coupe de glace. C'est un peu la tradition, nous. Les glaces, c'est notre dada avec les enfants. L'été, c'est les glaces.
La famille a même acheté un mobil-home ici pour profiter de la région.
Là, c'était vraiment l'histoire de se retrouver en famille ici, changer de cadre.
Quant aux enfants, ils ont déjà trouvé leur activité préférée, c'est la baignade.
On fait de la plage, des activités au camping, la piscine, ils sont tous baignés.
Une chose est sûre, Iseur célébrera son anniversaire cette semaine, les pieds dans l'eau.
L'Espagne sur le toit du monde. Les partenaires de Yamal ont réalisé le doublé Euro, Coupe du Monde. Victoire dans la nuit 1-0 après prolongation face à l'Argentine. Ferran Torres, seul buteur du match. Des festivités qui ont tourné au drame. Un adolescent est décédé cette nuit lors des célébrations.
Et côté français, la page Deschamps est tournée. Place au chapitre Zidane.
Après la défaite des Bleus dans la petite finale du Mondial, un nouveau sélectionneur va arriver sur le banc tricolore, Zinedine Zidane. Et le chantier Arthur Perrault est déjà immense. Renouveler l'équipe et relancer une machine qui a besoin d'un nouvel élan.
Oui, après l'élimination des Bleus en demi-finale de cette Coupe du Monde, Zinedine Zidane est déjà attendu. Il va devoir rapidement remobiliser le groupe France. Le consultant RMC Sport, Emmanuel Petit.
Si Dédé avait gagné une deuxième Coupe du Monde, ça aurait été, l'héritage aurait été extrêmement lourd quand même. C'est pas insurmontable non plus.
Mais pour l'ami intime et coéquipier de Zinedine Zidane en 1998, le charisme de l'ancien entraîneur du Real Madrid va l'aider à se démarquer.
Quand Zizou rentre dans une pièce, tout le monde se tait, même quand il parle pas. J'imagine que les joueurs, certains d'entre eux ont peut-être hâte de jouer sous les ordres de Zizou. Moi, c'est surtout un meneur d'hommes que j'ai envie de voir.
Sur le terrain, le technicien de 54 ans va devoir trancher dans la rupture avec son prédécesseur, le consultant RMC Sport, Jérôme Roten.
Il ne peut pas faire du copier-coller par rapport à ce que faisait Didier Deschamps. Est-ce qu'il sera dans la continuité avec Kylian sur le rôle de capitaine? Je pense que oui.
Selon nos informations, l'annonce de la nomination de Zinedine Zidane devrait intervenir en fin de semaine ou début de semaine prochaine avec un contrat jusqu'à la Coupe du Monde en 2030.
Jour de repos sur le Tour de France après une journée de rebondissement à l'abandon de Vingegaard, victime d'une chute, clavicule cassée. Le Belge Evenepoel a remporté l'étape au sprint devant Pogacar et s'empare de la deuxième place. Le Français Sexas perd son maillot blanc au profit d'Isaac Del Toro.
Le quintet du jour, c'est à l'hippodrome de Vichy aujourd'hui, 18h30.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, le 6, Maximilien, son outsider, et le 3.
C'était le journal de Clément Gouid sur RMC. Il est 8h38 dans un instant. Le choix de la rédaction et la France qui s'apprête à devenir le premier pays européen à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Est-ce une bonne idée? Tiens, on vous attend au 32-16. Et puis on va revenir sur la sécheresse record, les récoltes en chute libre et ce vote d'une loi d'urgence agricole qui met le monde politique et le monde agricole sous tension. Maxime Buizard, le vice-président des jeunes agriculteurs et lui-même céréalier, est avec nous dans un instant en direct. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes sur RMC, RMC Story, il est 8h42. C'est le choix de la rédaction ce matin. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Le Parlement doit se prononcer d'ici demain et la France deviendrait le premier pays d'Europe à interdire TikTok, Snapchat ou Instagram aux moins de 15 ans. La loi pourrait être mise en place dès la rentrée de septembre 2026. Et il est temps, c'est ce que vous nous dites, Bérangère Bouquillon.
Oui, parce que c'est désormais prouvé. Les réseaux sociaux sont mauvais pour la santé physique et psychique des adolescents. Et TikTok en particulier a un algorithme qui expose les jeunes à des contenus qui peuvent être violents, misogynes, homophobes, le terreau idéal pour du harcèlement ou de la désinformation. Sans compter que les adolescents y passent de plus en plus de temps. C'est ce qu'ils ont confié à Antonin Audion.
TikTok, 3 heures aujourd'hui.
Snapchat par semaine, c'est 28 heures. TikTok, c'est 14 heures.
Je pense que ma mère, elle serait pas contente. Je pense pas qu'elle est au courant que je fais 8 heures par jour. Elle regarde souvent mon téléphone, mais je cache. Et mon père, il regarde pas.
Moi, j'ai Insta, Snap et TikTok. Souvent, on est un peu hypnotisé par ça et on n'arrive plus à s'arrêter et on se rend pas compte du temps qui passe. T'as un peu la flemme de tout faire après.
Le jeune, il était au sol, il était en train de se faire taper. Je l'ai vu plusieurs fois parce qu'on scroll, après, il y a une autre vidéo qui parle de la même chose.
Ah, moi, je suis sur TikTok, j'ai l'impression de perdre mon temps tout le temps. Pourtant, je reste, je continue à scroller. Souvent, avant de dormir, et du coup, après, on est fatigué.
Parole de ces jeunes au micro RMC qui dorment moins, ça se ressent sur leur santé mentale avec des conséquences parfois terribles.
Oui, Martine est la maman de Lilou qui s'est suicidée le 23 avril 2023.
Elle avait 14 ans, ça faisait un mois qu'elle avait 14 ans.
Martine lui a offert un smartphone l'été de son entrée en 6e pour qu'elle puisse rester en contact avec ses amis. Elle autorise l'application TikTok l'année suivante.
Évidemment, je l'avais mise en garde contre les dangers de certains réseaux, mais je pensais plutôt aux prédateurs sexuels, au harcèlement, de pas envoyer de photos. Et je vois dans la voiture qu'elle regarde des vidéos où je vois des gens qui sont en dépression et qui en parlent. Et il y a des filtres qui rendent ça glamour, et il y a des petites musiques qui vont bien. Et je vois qu'elle enchaîne des vidéos comme ça.
Comment se scarifier ? Quand tu seras morte, tu seras libérée. Toutes ces vidéos ont été vues par Lilou. Martine a donc porté plainte avec 15 autres familles de victimes pour abus de faiblesse contre TikTok.
Quand j'ai commencé un petit peu à reprendre pied, on va dire, je me suis dit, c'est peut-être pas les réseaux qui l'ont mis en dépression, on n'est pas sûr. Par contre, s'il n'y avait pas eu TikTok, on aurait eu plus de chances de pouvoir la sauver. Et en fait, ça a été avéré par l'enquête et par les vidéos qu'on a retrouvées, quoi.
Ouais, on voit bien qu'il y a bien urgence à voter cette loi.
Oui, c'est ce qu'affirme la pédiatre Sylvie Diozica, membre du collectif sur Exposition Écran. Elle reçoit des ados de 11 ans ou parfois moins qui dorment 3 heures par nuit, des jeunes filles obsédées par la minceur à cause de vidéos sur les réseaux sociaux et les parents qu'elle voit n'ont pas toujours conscience du danger. Pour elle, il faut envoyer un signal fort à tous les parents d'adolescents.
Les messages sont brouillés. Un jour on dit « Ah, c'est dangereux », puis un jour on dit « Ah ben non, c'est pas si mal ». Ça permet d'échanger avec ses ados, puis il faut vivre avec notre temps, et puis maintenant le monde est numérique. Non, le produit est dangereux. Il est fait pour être addictif. C'est comme pour le tabac, c'est interdit à tel âge. L'alcool, c'est interdit à tel âge. Il faut que l'État donne un message très fort. C'est absolument indispensable.
La proposition de loi prévoit également l'interdiction du téléphone portable au lycée.
Et on saura d'ici demain si cette loi est votée et quand elle pourra s'appliquer. Merci Bérangère Bouquillon, chef du service société d'RMC, le choix de la rédaction ce matin. 8h46, dans un instant, l'invité d'Apolline Matin, c'est Maxime Buizard, vice-président des jeunes agriculteurs. La guerre de l'eau est-elle déclarée ? On est en pleine sécheresse historique et les députés doivent se prononcer ce soir sur une loi agricole qui doit justement permettre aux agriculteurs de stocker l'eau. Est-ce une privatisation de la ressource, comme le dénoncent les écologistes? On en parle dans un instant et vous réagissez bien sûr au 32-16. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h48 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Nous traversons une sécheresse historique. La quasi-totalité du territoire est concernée. 55 départements sont déjà considérés en état de crise. Bonjour Maxime Buizard.
Bonjour.
Vous êtes céréalier dans le département du Loiret, département qui a été très touché par la canicule ces dernières semaines. Et vous êtes aussi le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. C'est dans ce contexte de canicule et de sécheresse que le Parlement doit se prononcer ce soir sur cette loi d'urgence agricole, dont le point dur est justement le stockage de l'eau, avec également la question des pesticides. On va y revenir d'abord. Quel est l'impact pour vous de cette sécheresse sur les cultures ?
L'impact, comme pour tous les agriculteurs français, est très important. On a connu 3 épisodes de sécheresse depuis la mi-mai. Et donc, les céréaliers se retrouvent confrontés à des baisses de rendement de 15 à 40% suivant les territoires. C'est inédit d'avoir une sécheresse aussi forte et aussi impactante sur l'ensemble du territoire national.
Ça veut dire qu'il va y avoir des pertes en revenus pour beaucoup d'agriculteurs ?
C'est-à-dire qu'après 2 années, où déjà les revenus des agriculteurs étaient tout juste à l'équilibre ou légèrement négatifs, 2026 va être une année catastrophique. Beaucoup de nos collègues se retrouvent dans l'incapacité de financer la prochaine récolte, la prochaine moisson qui va venir cet automne.
Alors évidemment, dans ce contexte, on entend et on comprend bien que la question de l'eau est cruciale pour beaucoup d'agriculteurs qui demandent donc à pouvoir stocker cette eau. C'est toute la question qui tend les débats, notamment sur cette loi d'urgence agricole. Mais c'est vrai que quand on vit ce type de sécheresse, qu'on voit, on en parlait un peu plus tôt ce matin, qu'il y a aussi des risques sur les quantités d'eau potable disponibles pour les Français, est-ce bien raisonnable de se dire qu'on va stocker l'eau pour l'agriculture ?
C'est plus que raisonnable, c'est la solution. Pour le coup, face à des sécheresses en été de plus en plus importantes, la solution, c'est de stocker l'eau qui est en excédent en hiver. Vous vous rappelez sans doute, en février-mars, on a eu une grande partie du pays qui a subi des inondations suite à des pluies très importantes. Et donc, inspirons-nous de ce qui marche dans des pays qui ont déjà un climat plus chaud. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Maroc. Et qui se donnent les moyens de stocker l'eau en excès en hiver pour la réutiliser en été pour tous les usages. Évidemment, en priorité pour l'eau potable, mais également pour l'agriculture, pour maintenir le niveau des cours d'eau et donc maintenir la biodiversité. Également pour faire des réserves d'eau en cas d'incendie.
Sauf que certains de ces stockages agricoles pompent cette eau dans les nappes phréatiques. Donc ça peut aussi engendrer d'autres problèmes et ça enlève de l'eau des sols. Est-ce que c'est vraiment une solution de long terme ou est-ce qu'il ne faudrait pas changer finalement ce qu'on cultive en France ?
Mais pour le coup, on peut changer ce qu'on cultive. Mais quoi qu'on cultive, pour le coup, il y aura toujours besoin d'eau. Il y a des cultures qui sont plus ou moins gourmandes en eau. Mais quand ça fait, comme là, plus de 6 semaines qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau dans plus de la moitié du pays, aucune culture ne peut survivre. Et donc, sans irrigation, nous ne serons pas en capacité de maintenir la puissance agricole française et de maintenir notre souveraineté alimentaire.
Mais le maïs, par exemple, qui est très gourmand en eau en été, justement, dans les périodes où on en manque, est-ce qu'il est encore possible, à l'avenir, de se dire qu'on va continuer à cultiver du maïs ?
Oui, il est possible. Tout simplement parce que aujourd'hui, il pleut autant en France que ce qu'il pleuvait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, et il pleuvra autant en 2050 que ce qu'il pleut aujourd'hui. Simplement, la répartition annuelle de la pluviométrie n'est pas la même. Il pleut beaucoup plus en automne et en hiver, beaucoup moins au printemps et en été. Et donc, nous avons la capacité de pomper l'eau qui est en excédent dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques, en hiver, pour la réutiliser ensuite en été. Alors c'est ce que fait l'Espagne depuis 30 ans. Et ça a permis à l'agriculture espagnole de devenir le leader européen, ce que nous étions autrefois en France.
Cette question, elle tend les débats politiques sur cette loi agricole, avec notamment les écologistes qui dénoncent une forme d'accaparement de la ressource en eau, voire de privatisation de la ressource en eau. Vous craignez une forme de guerre de l'eau entre les agriculteurs et les écologistes ?
Non, on ne craint pas une guerre de l'eau, tout simplement parce que aujourd'hui, c'est pas une ressource qu'on privatise, c'est pas une ressource qu'on consomme. On a la démocratie locale de l'eau qui fonctionne avec les agences de bassin, avec les commissions locales de l'eau, où siègent à la fois les représentants agricoles, les représentants des collectivités, les autres acteurs économiques qui sont autour de la table. Et on a démontré sur des grosses nappes phréatiques, comme la nappe de Beauce, la capacité de gérer la ressource avec raison, avec efficacité. Ce qu'il nous faut, c'est démultiplier ce qui marche.
Donc vous attendez le vote de cette loi ce soir, il est indispensable ?
Ah, il est indispensable. Je rappellerai que cette loi, elle avait été annoncée par le Premier ministre au mois de janvier, après plus de 5 semaines de mobilisation agricole pour faire face à la détresse. Évidemment, elle touche le sujet de l'eau, mais elle touche aussi le sujet de la prédation et des loups qui attaquent les éleveurs de montagne. Et donc oui, le vote de cette loi est indispensable. C'est notre dernier créneau avant l'échéance présidentielle. On sait que dans les 1 an et demi qui vient, nous n'aurons pas la capacité de porter de nouveaux textes agricoles. Et donc l'adoption de cette loi d'urgence est très attendue.
Avec une incertitude quand même sur le vote ce soir qui est lié peut-être moins à l'eau qu'aux pesticides, qui est l'autre sujet qui tend les débats, la question notamment de l'acétamipride dont les sénateurs ont introduit la réautorisation dans cette loi. Est-ce que cela ne risque pas de compromettre le vote de cette loi ? Est-ce qu'il est bien raisonnable d'aller vers cette réautorisation ?
Oh ben, il est raisonnable de permettre à l'ANSES, qui est notre autorité sanitaire, de réhomologuer, donc de mettre sur le marché l'acétamipride. Je rappellerai simplement que dans les 26 autres pays de l'Union européenne, cette molécule est autorisée. Elle est interdite en France uniquement pour des choix politiques qui avaient été faits en 2017, qui mettent à mal les filières françaises de
sur la base aussi d'études sur sa dangerosité quand même.
Alors, non, pour le coup, l'ANSES n'a jamais retiré l'homologation de l'acétamipride. C'est un choix qui avait été fait par les députés en 2017, qui n'est pas fondé et qui est contraire au choix qu'ont fait les 26 autres pays de l'Union.
Merci beaucoup Maxime Buzard d'avoir été avec nous en direct ce matin, vice-président des jeunes agriculteurs. Il est 8h54 et dans un instant, c'est les grandes gueules, les GG avec Olivier Truchot. Salut Olivier.
Salut, bonjour à tous, les grandes gueules. Alors plus besoin d'écouter l'after foot parce qu'il y a les grandes gueules qui vont parler
de le débrief.
Propre bilan de la Coupe du Monde. Vous allez voir, ça va être d'un très très haut niveau, notamment avec Charles Consigny, Laura Marteau-Martinez et Bruno Poncet. Alors cette Coupe du Monde, est-ce qu'on la
regrette déjà. Elle s'est terminée hier soir. On parlera des voyous argentins, on parlera des adieux de Deschamps, de l'équipe de France. Bref, on a quand même passé 4 semaines et demie formidables. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire de nos soirées?
On va regarder le Tour de France.
Ouais. Ça va être difficile le soir, mais bon, pourquoi pas. Allez, en tout cas, on vous attend au 32-16. Dites-nous comment vous avez vécu cette Coupe du Monde avec les grandes gueules dès 9h, 9h midi sur RMC, RMC Story.
À tout de suite pour les GG. Très belle journée sur RMC.